L'invité régional avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
Août 1914, comme tant d'autres, Édouard Gouret, jeune Mayennais de 22 ans, est mobilisé. Son régiment, le 117e régiment d'infanterie, est engagé dans la tristement célèbre bataille de Virton. Gilles Beignet, vous êtes le petit-fils d'Édouard Gouret. Bonjour.
Bonjour.
Nos auditeurs comprendront que votre grand-père ne fait pas partie des nombreux soldats qui ont péri lors de ce premier engagement de l'armée. On ne va pas revenir sur cette bataille. Ce qui est important, là, c'est que le 31 août, il est fait prisonnier.
Oui, c'est exact.
Il est envoyé en camp et puis on travaille dans une ferme. Nous sommes en fin 1915.
Oui.
Et alors là, que se passe-t-il ?
Il est affecté dans une ferme, dans un village qui s'appelle Speisesdorf. Il était prisonnier au camp de Grafenwöhr, qui est distant de 20-25 km de Speisesdorf.
Est-ce qu'il a vraiment travaillé dans la ferme de la personne dont on va parler, ou est-ce qu'il l'a rencontré dans d'autres circonstances, puisque je crois qu'aussi votre grand-père était musicien, jouait de l'accordéon et donc jouait au bal les week-ends. Alors, c'était pas non plus la belle vie dans les camps de travail, hein, faut relativiser, on pourrait dire comme ça, mais bon, toujours est-il qu'il fait la connaissance d'une jeune fille, d'une jeune femme d'ailleurs, puisqu'elle est mariée, Babette Dennerlein.
Oui, c'est ça. Son mari est au front en Russie. Elle est restée à la ferme, comme beaucoup de femmes à l'époque. Et son père était présent aussi sur l'exploitation. On ne sait pas tout, mais on sait que Édouard est intervenu dans cette ferme-là, mais il intervenait dans la ferme voisine. Et les circonstances de la rencontre avec Babette, on suppose que c'est lors de manifestations, lors de week-end, il jouait de la musique, jouait de l'accordéon et... Mais il a dû la côtoyer aussi, puisqu'il allait dans la ferme. Je ne peux pas vous dire exactement les circonstances de la rencontre, mais la rencontre a bien, bel et bien eu lieu. Ça, c'est sûr. Ils ont eu une relation quand même assez forte, une relation, on dirait même amoureuse.
Hein. Oui. En octobre 1917, Édouard est rapatrié dans un autre camp. On ne va pas revenir sur les circonstances, mais il y a eu des heurts localement. Donc, tout le monde est envoyé dans un autre camp. Ça, c'est en octobre 1917. Mais en février 1918, il se passe...
La naissance de Sophie, l'enfant donc de Babette et d'Édouard Gouret, qui lui n'est plus là. Est-ce qu'il l'a su ou pas ? Ça, il y a seul lui le sait, mais moi je le saurais pas puisque j'ai pas connu mon grand-père. Il est décédé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et toute cette histoire, moi je l'ai découvert beaucoup plus tard puisque c'est dans les années 90, suite à des contacts avec une famille allemande dont on va parler plus tard, nous a permis de retracer la vie et l'histoire de mon grand-père maternel.
Tout cet aspect qui était caché. Parce que donc, Édouard, en 1917, va dans un autre camp. On connaît la suite. Hein. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. Édouard revient à la vie civile en Mayenne. Il entre dans la compagnie des chemins de fer à Cossé-le-Vivien. Il se marie en avril 2020 avec donc, votre grand-mère, Marguerite Béillard.
Oui.
Donc, ils ont deux enfants. Mmh. Et puis alors, si on revient parallèlement à la petite Sophie... Sophie Dennerlein, née en 1918. Elle a été reconnue par son père, ça n'a pas forcément été simple, par le mari.
Non, lui, il avait su que sa femme avait donc une relation avec un prisonnier de guerre français, Édouard Gouret. Vous pouvez imaginer l'état d'esprit dans lequel il était. Et quand il est revenu, il a quand même retourné auprès de sa femme. Les retrouvailles n'ont pas été simples, mais ils se sont retrouvés. Et à partir de là, il a reconnu Sophie comme étant sa propre fille. Donc ça a été, je pense, quelque chose qui a été quand même douloureux pour la famille, mais qui a été surtout très douloureux pour Sophie, parce que, évidemment, comme en France, dans les villages allemands, tout se sait, et même si c'était l'enfant de l'amour, c'était quand même une relation avec l'ennemi. Et d'ailleurs, aussi bien Babette qu'Édouard s'en sont sortis miraculeusement. Et donc, suite à ça, elle a vécu sa vie, elle a eu donc deux enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants, mais elle a souffert beaucoup dans sa vie parce que les gens du village...
Il y avait une sorte d'opprobre quand même.
Alors, il y avait des propos, je ne vais pas répéter là, mais qui étaient très durs. Et elle en a souffert. Et quand elle est arrivée, vers la fin de sa vie, elle avait quand même une quête, c'est de savoir ce qu'était devenu son père. C'est à partir de là que tout s'est enclenché. La chance qu'elle a eue, c'est qu'elle avait donc sa petite-fille, Elke, Bunscherer, qui allait de temps en temps en France, puis qui a vécu avec son mari. Elle lui a fait une requête, disait si tu pouvais faire des recherches pour retrouver des traces de mon père. Alors le problème, c'est que quand Elke a commencé à creuser un petit peu avec sa grand-mère pour pouvoir effectuer les recherches, elle lui demandait des informations. Or, Sophie ne se rappelait que d'un seul détail, du prénom de son père, Édouard.
Mais c'est un peu léger comme information.
Mais les Allemands sont des gens très rigoureux, très organisés. Tout était consigné pour les allées et venues des prisonniers de guerre, dans les camps et puis à l'extérieur. Et dans la commune de Speisesdorf, à l'époque, il n'y avait qu'un seul Édouard. Et donc, c'était Édouard Gouret. Donc, ça a facilité les recherches. Alors, elles ont commencé, je dirais, dans les années 85-90. Il y a eu une petite interruption parce que quand Elke a découvert que ma grand-mère maternelle, donc Marguerite Béillard, que vous avez évoquée tout à l'heure, était toujours vivante et que comme elle ne savait pas si la famille était au courant de tout ça, elle a stoppé momentanément un peu les recherches.
Par délicatesse, pour ne pas blesser, en fait, la femme de son grand-père.
Je pense, et puis, et puis les familles françaises également. Et donc, à partir de là, quand elle a su ça, donc les recherches se sont à nouveau enclenchées et elle a retrouvé donc Édouard Gouret dans la commune où il est né, la Selle-Cranaise. Et puis après, c'est remonté vers Claude Gouret qui nous a appelé, dire voilà, moi j'ai eu un contact avec une personne d'Allemagne qui recherche des informations par rapport à sa grand-mère qui veut avoir des informations sur son père. Et voilà, le processus s'est enclenché. Et donc, ça a abouti avec une visite de Elke en 1994.
Et puis. Pardon, je rappelle, donc, Elke est la petite fille de Sophie, la fille d'Édouard Gouret et de Babette Dennerlein.
Oui, donc voilà. la demi-sœur de ma mère. Et donc, elle est venue en France avec son mari et puis ses enfants. Puis après, donc, en 1995. Enfin, Sophie est venue en France, en Mayenne, et on a visité un peu la Mayenne. Et surtout, on est allé sur la tombe de son père, qui est enterré à Cosselvillia. Et après, je dirais que tout ça, ça l'a pas mal apaisé. Donc, nous, on l'a vu après, début 2000.
Et vous l'avez revue.
Revue, pardon. Oui. Elle était apaisée. Après, il y a eu plein d'anecdotes, et donc, elle est partie apaisée. Oui. Et alors, une fois Sophie décédée, les relations se sont intensifiées. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas des relations permanentes, mais il n'y a pas de mois où on ne se téléphone pas, où on s'échange des informations. Et puis, il y a des moments présentiels. Bon, par exemple, nous, l'année dernière, on a passé un peu plus de 2 semaines là-bas, notamment pour faire des recherches par rapport à l'article qui est paru sur l'Oribus. On s'est rendu sur le lieu du camp où était prisonnier mon grand-père. Et puis, à Speisesdorf, on a déambulé dans les différents endroits où lui, il a vécu, travaillé pendant cette Première Guerre mondiale.
C'est vraiment une fabuleuse histoire, hein, Gilles Beignet, que celle de votre grand-père et puis de ses recherches, parce que tout aurait pu rester complètement secret. Même, il est presque étonnant que Sophie, donc la fille d'Edouard et Babette, ait été mise au courant de l'identité, même juste du prénom de son père, puisque c'était quand même une enfant illégitime. Comme vous l'aviez dit, sa maman risquait la condamnation à mort. Donc il devait y avoir une grosse chape de plomb sur cette naissance.
C'est ce qu'on suppose. Alors, il y a des choses que l'on ne sait pas. Elke non plus ne sait pas en Allemagne. Et puis bon, maintenant, on va pas refaire l'histoire. Mais c'est vrai que il y a eu sûrement des choses qui sont un peu étranges, mais qui sont en même temps le reflet de la réalité de l'époque. Hein. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les relations sont un peu au niveau à notre niveau petits-enfants, mais aussi arrière-petits-enfants, puisque il y a des échanges. Une de mes filles a vécu une année en Allemagne. Aussi bien ma sœur que moi, on a reçu les enfants pendant les vacances, les enfants d'Elke. Et puis, il y a eu des anniversaires communs. Ils sont venus en France, nous étions en Allemagne. Je vous dis, il y a des échanges, alors pas permanents, mais il y a beaucoup d'échanges.
Très réguliers en tout cas.
Voilà, réguliers. Ouais. Ouais.
Donc, c'est vraiment une belle histoire, hein, de retrouvailles, hein, et de fraternité entre des familles, hein, et puis entre deux nations qui se sont fait la guerre. Donc, puisque cette semaine, hein, c'est l'armistice, hein, que l'on célèbre. Hein. Et vous avez eu raison, Gilles Beignet, de préciser, de parler de cet article de l'Oribus, puisque c'est grâce à cet article, hein, que j'ai découvert votre histoire et que je vous ai sollicité. Cet article pour lequel Alain Viau vous a aidé. C'est vraiment celui de ce mois de novembre 2020. Et il est agrémenté, en fait, cet article, de détails bien plus qu'on a pu en dire ici, et puis de cartes, d'informations historiques, et puis de photos de famille. On voit Sophie en famille.
Lors de son séjour en 1995.
Est-ce que vous tirez une conclusion? Est-ce que ça a changé votre vie, ces retrouvailles, Gilles Beignet?
Ça m'a permis d'en connaître un peu plus sur la vie de mon grand-père, parce que je ne savais pas grand-chose. Après, sur ce qu'on vit actuellement, ben, je pense que rien n'est impossible. À partir du moment où on ne met pas de barrière, on peut avoir des relations simples entre pays, sans animosité. Alors nous, on est des petites gens, bien sûr, mais les petites gens font les grands.
C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Gilles Beignet, de nous avoir permis de connaître cette histoire. Et puis merci à tous les acteurs qui ont permis que ces retrouvailles se fassent. Et merci à Lauribus, donc, qui a mis cette histoire aussi au grand jour. Et je vous laisse le mot de la fin, Gilles Beignet.
Il ne faut surtout pas oublier non plus de remercier Elke, son mari, ses enfants, notre famille allemande, parce qu'eux aussi se sont beaucoup investis.
Si nos auditeurs veulent consulter et voir Lauribus, ils connaissent la marche à suivre, puisqu'on en parle assez régulièrement sur notre antenne. Et il faut aller sur le site internet de Lauribus et on trouve toutes les coordonnées. Et puis sinon, c'est dans les maisons de la presse, celles qui sont encore ouvertes pour l'instant. Donc un grand merci à Lauribus et merci beaucoup Gilles Beignet de ce récit.
Merci.